Chers pères, chers frères, chers confirmants, chers parrains et marraines, chers fidèles, le sacrement de confirmation donne à celui qui le reçoit une augmentation de la grâce, une vertu, une force nouvelle qui le rend plus fort, qui en fait un parfait chrétien, un parfait soldat de notre Seigneur Jésus-Christ. Dès les premiers jours de l'Église, nous voyons saint Pierre et les autres apôtres suivre les instructions de notre Seigneur et communiquer le Saint-Esprit et ses sept dons aux premiers chrétiens. Les apôtres avaient reçu la plénitude du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et cela les avait transformé leur conduite. Dans le baptême, nous sommes régénérés pour vivre, nous sommes lavés du péché originel. Par la confirmation, nous sommes fortifiés, elle nous procure des armes et nous prépare au combat contre les ennemis de notre salut, contre les ennemis de notre Seigneur. Tous les sacrements sont au-dessus de la nature, au-dessus des forces humaines, et donc ils ne peuvent avoir pour auteur que Dieu seul. Les sept sacrements, et en particulier la confirmation, ont fait des milliers de saints et de martyrs de tous les âges. Les enfants, les femmes, les hommes, de toutes conditions. Et il y en a encore aujourd'hui des milliers, chaque année, au Moyen-Orient et en Afrique. Et cela commence même en France. Tous ceux qui meurent aujourd'hui en haine du catholicisme, à cause des ennemis du Christ, qui ont le diable pour père. Et qui se propose de conquérir l'Europe, avec les encouragements, malheureusement, de beaucoup à Rome et des évêques. Ces envahisseurs ont déjà conquis plusieurs fois bien des pays en Europe. Depuis la bataille de Poitiers en l'an 732. Et tout ce désastre auquel nous assistons aujourd'hui est une conséquence de l'oubli de Dieu, un châtiment, parce que on ne croit plus, on ne prie plus. Nous avons hérité d'un pays merveilleux, mais nous ne savons plus remercier notre Seigneur, ni sa très sainte mère. La confirmation donne une grâce nouvelle. Elle remet et pardonne les péchés. Elle perfectionne et amplifie la grâce du baptême. La confirmation rend plus fort pour résister aux attaques de la chair, du monde, ennemi de Dieu, et du démon, qui n'a jamais été aussi puissant contre la foi, contre la morale, contre les catholiques, contre l'Église. Cette Église catholique qui est la seule qu'il combat, la seule contre laquelle il s'acharne et qu'il est bien prêt de vaincre et de faire disparaître, si ce n'était les promesses de notre Seigneur. La confirmation fortifie la foi dans le cœur des jeunes. Ils en ont bien besoin, car tout, aujourd'hui, est une arme contre la foi, en premier lieu, l'œcuménisme, les prétendus droits de l'homme, sans Dieu ni loi, qui vont contre la vérité, contre l'autorité et contre la sainteté, même la sainteté du mariage et des familles chrétiennes, est menacée aujourd'hui. Quand à Rome on dit qu'il ne faut pas imiter les lapins, quand on ordonne aux prêtres de donner les sacrements aux adultères et aux autres. Aujourd'hui, justement, nous fêtons Saint Jean-Baptiste, qui a été assassiné par Hérode parce qu'il lui reprochait son adultère et à cause de l'indécence de sa belle-fille. Cela a coûté la tête de Jean-Baptiste. Plusieurs cardinaux s'opposent publiquement à ces scandales, mais ils ne reçoivent aucune réponse. Et peut-être les exilera-t-on aux Philippines, par exemple. Notre Seigneur a parlé de la confirmation comme d'un vêtement nouveau, pour l'homme nouveau. Il dit aux apôtres, demeurez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la vertu et de la force d'en haut par le Saint-Esprit, ce qui aura lieu le jour de la Pentecôte. Les apôtres, avant la Passion et pendant la Passion, étaient encore faibles, sans énergie, timides, peureux. Le futur premier pape de l'Église avait renié trois fois son maître, et il s'était même entendu dire par lui, « Vade retro, Satanas, retire-toi de moi, car tes sentiments ne sont pas ceux de Dieu, mais ceux des hommes. Jusqu'à quand aurai-je à vous supporter, homme de peu de foi ?» Et au moment de la Passion, les apôtres, ayant abandonné Jésus, prirent tous la fuite. Et l'un des douze s'était réconcilié avec Caïphe pour trahir notre Seigneur. Au contraire, le jour de la Pentecôte, les apôtres reçoivent les sept dons du Saint-Esprit et pleins de courage, remplis du Saint-Esprit, ils convertissent le même jour 3000 Juifs. Et quelques jours après, ce nombre montera 5000, nous dit l'Évangile, les Actes des Apôtres. Et les apôtres se voient obligés de résister à l'autorité suprême, au souverain pontife, à toute la hiérarchie religieuse de la synagogue. Saint-Pierre, rempli de l'Esprit-Saint, de foi et de courage, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, sachez-le bien, vous tous et le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts que cet homme a été pleinement guéri. Ce Jésus, rejeté par vous, est devenu la pierre angulaire de l'édifice. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas sous le ciel un autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Par conséquent, ni par Mahomet, ni par Bouddha, ni par Luther. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez vous-même qui êtes l'autorité suprême. Est-il juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu ?» Autrement dit, devons-nous obéir à l'autorité religieuse? Si cette fausse obéissance à l'autorité infidèle implique désobéir à Dieu, faire le silence sur la doctrine de la foi en Jésus-Christ, c'est par obéissance à la suprême autorité religieuse que le peuple de Jérusalem a choisi Barabbas et condamné notre Seigneur à la crucifixion. Saint Matthieu écrit « Pilate savait que c'était par envie, par jalousie, que les grands prêtres lui avaient livré Jésus. Mais ceux-ci persuadèrent au peuple, en vertu de l'obéissance à l'autorité, de demander Barabbas et de faire crucifier Jésus. Pilate se lava les mains devant le peuple. « Je suis innocent du sang de ce juste. À vous d'en répondre. » Et, dit l'Évangile, tout le peuple dit « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Voilà bien un cas où nous avons besoin des sept dons du Saint-Esprit. Que faire dans le cas d'une autorité infidèle à sa mission? C'est le cas rapporté dans le chapitre 5 des Actes. Alors le grand prêtre, qui était comme le souverain pontife, rempli de jalousie, fit arrêter les apôtres et les fit jeter en prison. Un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Allez dans le temple et annoncez au peuple toutes ces paroles de vie. » L'ange confirme donc de la part de Dieu la conduite des apôtres qui continuaient à se rendre au temple de Jérusalem, centre du culte juif. Jusqu'à ce que, devant le refus obstiné de ce peuple, eh bien, les apôtres et saint Paul en particulier se tourneront vers les gentils. Alors le souverain prêtre les fit comparaître devant le Sanhédrin et dit aux apôtres, « Nous vous avons expressément défendu d'enseigner la doctrine de Jésus. » Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, même revêtus de la plus haute autorité religieuse. Gamaliel dit au pontife, si cette idée ou cette œuvre vient de Dieu, c'est-à-dire l'Église, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir lutté contre Dieu lui-même. La réponse des apôtres, qu'ils répètent au moins par deux fois au grand pontife, est inspirée du Saint-Esprit. On doit obéir à Dieu plutôt qu'aux autorités qui prétendent nous imposer le contraire. Cette réponse prouve que l'obéissance inconditionnelle, aveugle, qui va contre une conscience droite pour lui imposer, par exemple, une nouvelle religion qui s'oppose à la religion enseignée par 260 papes pendant 2000 ans, et bien qu'une telle obéissance n'est pas catholique et n'est pas conforme à la vraie obéissance qui nous oblige à résister pour rester fidèle à la religion enseignée par les apôtres, par tous les papes, c'est-à-dire la doctrine de la tradition catholique. Le Christ, notre Seigneur, et sa doctrine sont immuables, semper idem. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Nous ne sommes pas des robots pour nous laisser conduire aveuglément, ainsi que le dit saint Paul aux Corinthiens. Notre Seigneur est la lumière. Il ne veut pas qu'on le suive dans les ténèbres, avec la foi du charbonnier. Parce que la vie éternelle consiste à bien connaître notre Seigneur et sa doctrine qui nous conduit au Père. Or, Dieu ne se contredit pas. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut y avoir d'opposition, de contradiction entre l'obéissance à ceux qui commandent au nom de Dieu et la volonté divine qui nous ordonne de rester fidèles à la religion de toujours. En cas de conflit entre l'autorité des hommes et l'obéissance à Dieu, à la foi, Dieu lui-même nous donne la conscience qui doit être celle qui doit décider. Obéir à Dieu, à la vérité, à la foi, plutôt qu'aux autorités qui s'en détournent. Comme le dit saint Paul aux Galates, « Ô Galates insensés, qui vous a fasciné pour ne pas obéir à la vérité ? Vous couriez si bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Et saint Paul leur donne son propre exemple. « Quand je vis que Pierre, le premier pape de l'Église, ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je lui résistais face à face, parce qu'il était digne de blâme. » Le Saint-Esprit a donné en cette occasion à Saint-Paul le don de force pour résister à Saint-Pierre. Mais avec une bonne intention, celle de ramener le chef de l'Église dans la fidélité à sa mission. Nous voyons donc que l'homme est perfectionné par les dons du Saint-Esprit. Il est perfectionné en premier lieu par les vertus humaines. Mais pour correspondre à l'impulsion de Dieu, il a besoin de perfections plus élevées que lui procurent les dons, qui nous dispose à suivre promptement les inspirations de Dieu. Tous ceux qui sont mus, poussés par l'Esprit de Dieu, ce sont ceux-là qui sont ses enfants et ses héritiers, nous dit l'Écriture. C'est votre Esprit, Seigneur, qui me conduira dans la terre des justes. Le Saint-Esprit, dit notre Seigneur aux apôtres, demeurera avec vous et il sera en vous. Quatre dons, vous le savez, perfectionnent la raison de l'homme, son intelligence. Ce sont la sagesse et l'intelligence, le conseil et la science. Trois dons perfectionnent la volonté. La piété pour les devoirs envers Dieu, nos parents et notre patrie, et la force pour nos devoirs dans les dangers, dans les difficultés, comme celle que rencontra saint Paul et qui le poussa au difficile devoir de résister à saint Pierre pour l'inviter à faire moins de diplomatie avec les judaïsants. Et finalement, le don de crainte pour la lutte contre les plaisirs mauvais. Bien sûr, la première union avec l'Esprit-Saint s'opère par la foi, l'espérance et la charité. Les dons présupposent ces trois vertus pour racines et ils leur appartiennent comme des ramifications. Que la bienheureuse Vierge Marie demande pour nous et particulièrement pour les confirmants, en ce jour de leur confirmation, en abondance, les dons du Saint-Esprit pour toute notre vie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.